Europe 1.
Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Cette semaine, je vous invite à naviguer avec moi le long de la Loire à l'occasion d'une mini-série en 4 épisodes consacrée aux plus illustres châteaux qui bordent le fleuve. Acteurs immobiles mais essentiels de notre passé, ces édifices somptueux ont été le théâtre de l'histoire de France entre douceur, fête et tragédie. Et ils en sont aujourd'hui les témoins. 3e escale, non pas au bord, mais sur une rivière, le Cher, qu'enjambe littéralement le château de Chenonceau. Vous allez voir que dès l'origine, le rôle et l'influence des femmes y ont été particulièrement déterminants. Le 10 juillet 1559, Catherine de Médicis fait annoncer le décès de son mari, le roi Henri II, mort une semaine plus tôt dans d'atroces souffrances causées lors d'un tournoi par la lance qui lui a crevé l'œil. Toute de noir vêtue, contrairement à la tradition du deuil blanc pour les reines de France, la régente s'incline devant la dépouille de celui qu'elle avait toujours aimé et admiré, mais qu'elle avait dû partager avec sa puissante rivale, Diane de Poitiers. Si Catherine de Médicis, patiente et dissimulée, a accepté cette situation, elle refuse de partager Chenonceau que le roi a donné à sa maîtresse. La veuve se venge en disant, avec hypocrisie,
« Elle faisait les délices de mon cher mari. J'ai honte de reprendre Chenonceau. Je lui donne Chaumont. »
Avant de quitter Chenonceau, Diane restitue à Catherine la cassette des bijoux de la couronne que son royal amant lui avait offert, ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Diane de Poitiers s'en va, elle n'ira jamais à Chaumont et finira sa vie au château d'Annette. Enfin, Chenonceau est à Catherine de Médicis et à elle seule. Si Chambord est un château masculin, extraverti et celui d'un seul homme, Chenonceau est un château féminin, introverti et l'œuvre de plusieurs femmes. Son site a toujours été politiquement important. Il n'est pas sur la Loire, mais sur la rive droite du Cher. Lors de la guerre de Cent Ans, une forteresse féodale, la Tour des Marques défendait un passage stratégique en avant-poste de Tours, cité restée fidèle au roi de France. En février 1513, sous le règne finissant de Louis XII, Thomas Boyer, un riche bourgeois tourangeau, achète le fief, détruit le bâtiment et ne conserve que le donjon. Il commence alors l'édification d'un château particulièrement original. En effet, au lieu de l'élever au bord du Cher, il le jette par-dessus la rivière en utilisant les piles d'un ancien moulin. La vieille tour des Marques est mise au goût de la Renaissance. Le maître des lieux étant très absorbé par sa charge puis éloigné en Milanais par une nouvelle guerre d'Italie, c'est son épouse Catherine, avec un K, Brissonnet, qui va diriger les travaux avant même que ne commence le règne du jeune François Ier. Énergique tourangelle, elle est issue d'une famille de puissants financiers, fille et nièce de surintendants du royaume. On ignore son année de naissance, mais cette première bâtisseuse est aussi une gestionnaire remarquable. Son château a alors l'aspect d'un corps de logis rectangulaire agrémenté de 4 tourelles cylindriques. L'originalité est que chaque étage, desservi par un escalier, comprend une galerie centrale éclairée à chaque extrémité par une porte-fenêtre dont l'une donne directement sur la rivière. On dira que cette demeure, conçue en fonction de l'eau, est d'inspiration vénitienne. Cette curiosité, qui ne s'était jamais vue en Val-de-Loire, restera unique. Chenonceau est unique. Catherine Brissonnet construit utile. La bâtisseuse fait venir de Tours des maçons, des tailleurs de pierre et des charpentiers, tous des artisans de qualité. Sur 2 étages, elle aménage 4 pièces réparties autour de la galerie centrale, avec un escalier droit, ce qui est une nouveauté. En 1517, François Ier, qui a succédé à son cousin et beau-père Louis XII 2 ans plus tôt, est sensible à la beauté du lieu où l'architecture utilise si bien le décor fluvial. Dans une lettre, le roi parle
« D'une belle place et maison, assise sur la rivière du Cher, en beau et plaisant pays, près de nos forêts d'Amboise et de Montrichard, où nous allons souvent chasser et prendre notre passe-temps.
Visiblement, le roi a envie de s'y arrêter puisqu'il ajoute
« Nous pourrions loger au dit châtel les maisons de Chenonceau. »
En décembre 1517, le souverain accorde au ménage Boyer le privilège de construire un pont sur le Cher qui sera achevé en 1521. Les époux n'en profitent guère. Thomas Boyer, promu lieutenant général du roi en Italie, s'éteint en Milanais en 1524 et Catherine ne lui survit que 2 ans. Leur souvenir est marqué sur la porte de la salle des gardes où l'on distingue les saints patrons des bâtisseurs, saint Thomas et sainte Catherine. Leur devise était « S'il vient à point, me souviendra », c'est-à-dire « Si je parviens à construire Chenonceau, on se souviendra de moi ». On ne peut oublier l'entêtement de Thomas Boyer à acquérir ses terres, ni surtout la maîtrise avisée de sa femme. Au premier étage, le vestibule pavé de petits carreaux de terre cuite timbrés d'une fleur de lys est d'ailleurs traversé par une dague qui porte le nom de Catherine Brissonnet. Mais on va découvrir que des malversations ont été commises par Thomas Boyer. Il a laissé des dettes au trésor royal, ce que son épouse ignorait. L'aîné des 9 enfants du couple Boyer doit régler une somme colossale, 90 000 livres. Il essaie de s'entendre avec ses frères et sœurs. La somme étant impossible à réunir, l'amende est transformée en donation forcée. En 1535, la couronne qui lutte contre la corruption prend possession de Chenonceau. C'est désormais une résidence royale. Ainsi, François Ier s'y sentira encore davantage chez lui. Au nom du roi, le nouvel occupant est le connétable de Montmorency. Le souverain revient plusieurs fois à Chenonceau, appréciant sa douceur et son calme. On a le souvenir de 2 de ses séjours, l'un en 1538 avec Charles Quint et l'autre en 1545. 2 mois après son avènement, le 31 mars 1547, son fils, Henri II, le nouveau souverain, fait don de Chenonceau à sa maîtresse, Diane de Poitiers, qui a 20 ans de plus que lui. Le jeune homme, fort, robuste, beau cavalier, est d'humeur sombre. On ne le voit jamais rire. Son enfance a été difficile. Avec son frère aîné, alors qu'Henri n'a que 7 ans, il est prisonnier de Charles Quint à Madrid, conséquence du désastre de Pavie. Sa détention a duré plus de 3 ans et son adolescence a été traumatisée par cette humiliation. Il est très amer jusqu'au moment où il tombe éperdument amoureux de la veuve d'un grand sénéchal de Normandie, Diane de Poitiers. Beauté glacée, toujours vêtue de noir et blanc, cette grande femme aux longues jambes incarne la perfection racée d'une Diane de la Renaissance. Les différences d'âge ne la gênent pas. Son mari a 40 ans de plus qu'elle, elle est devenue la maîtresse du dauphin Henri au printemps 1538 alors qu'il avait 19 ans et qu'elle était chargée de rendre ce jeune prince taciturne plus aimable. Immédiatement, il ne peut plus se passer d'elle. Marié à Catherine de Médicis, très intelligente mais pas précisément une beauté, le dauphin ne parvient pas à donner un héritier à la couronne. Diane, favorite de haut vol qui connaît tous les secrets de l'amour, intervient et prodigue, dit-on, ses recettes à Catherine de Médicis. Selon une expression de l'époque, la Florentine a enfin le ventre libéré et met au monde entre 1544 et 1556 10 enfants dont 3 fils qui régneront sur la France, François II, Charles IX et Henri III. La favorite avait intérêt à ce que Catherine puisse enfanter, sinon elle risquait d'être répudiée et remplacée par une jeune et belle princesse qui aurait pu l'évincer. Enfin mère, Catherine de Médicis exprime une reconnaissance toute relative à sa somptueuse rivale. Après l'avoir conviée à faire bonne chère, elle explique d'une façon crue comment elle supporte la maîtresse de son mari.
« Je lui faisais toujours connaître que c'était à mon très grand regret, car jamais femme qui aima son mari n'aima sa putain. »
Pour la deuxième fois, une femme, la maîtresse du dauphin puis du roi, est en charge du destin de Chenonceau. Et Catherine, humiliée par cette liaison affichée en permanence, est silencieuse. Elle est contrainte d'attendre. Chenonceau étant un bien de la couronne, Diane tient à sauver les apparences. Son subterfuge est un chef-d'œuvre d'hypocrisie amoureuse et de calcul politique. Sur ordre d'Henri II, la vente forcée de Chenonceau à la couronne est cassée pour surestimation de la dette le 28 février 1554. Antoine Boyer se retrouve propriétaire du domaine et obligé de le remettre en vente. Le 21 mars 1555, Diane le lui rachète pour 50 000 livres. Cet achat est fait à titre personnel, sans avoir rien à payer. Pourquoi une telle générosité ? Officiellement, en mémoire des grands et recommandables services rendus autrefois par l'époux de Diane, grand sénéchal de Normandie sous le règne de François Ier. La maîtresse du roi insuffle à Chenonceau son aspect extérieur définitif, tout en gérant son domaine en habile femme d'affaires. Elle y séjourne souvent, parfois avec le roi. Sur la rive droite du Cher et en amont, elle crée un jardin et un verger entourés de profonds fossés. Ils sont les plus innovants et les plus spectaculaires de l'époque. Plantés d'une multitude d'espèces et d'essences, ils mettent en valeur le dessin géométrique des parterres et des allées où sont disposées des fontaines. Dans le potager, poussent des melons et des artichauts, tandis que 150 mûriers blancs sont plantés pour l'élevage du ver à soie. En 1559, Diane convoque l'architecte du souverain, Philibert de Lorme. Pour elle, il a déjà construit le château d'Annette. Elle lui demande de reprendre d'anciens plans du couple Boyer pour jeter un pont sur la rivière. 5 arches en plein cintre sont achevées, barrant le Cher sur toute sa largeur. Diane surveille de près le domaine et elle en fait un modèle d'exploitation avec, par exemple, un vignoble de 12 hectares. Elle obtient même de Henri II la création d'un surprenant impôt de 20 livres par cloche, dont une partie lui est reversée. Cette mesure, plus que contestable, inspire à Rabelais un trait désobligeant mais comique. Le roi a pendu toutes les cloches de son royaume au col de sa jument. Peu importe, Chenonceau est d'une rentabilité exemplaire. Diane de Poitiers est favorite et femme d'affaires. Chassée du château après la mort prématurée d'Henri II, Diane de Poitiers s'éteint chez elle à Annette, à l'âge de 67 ans, le 22 septembre 1566. Si, à l'époque, elle en paraît 20 de moins, c'est probablement, selon une expertise réalisée en 2009, grâce aux potions d'or qu'elle ingurgitait quotidiennement pour conserver sa beauté. Si Diane de Poitiers avait considéré Chenonceau comme un immense nid d'amour, la reine régente en fait le symbole de son autorité. De son cabinet vert dominant le Cher, la Florentine gouverne la France. Mais elle prend aussi la relève de sa rivale. Sur le pont dit de Diane de Poitiers, elle fait construire une magnifique galerie, longue de 60 mètres, presque une salle de bal. Large de 6 mètres, elle est éclairée de 18 fenêtres, son sol est carrelé de tuffeaux et d'ardoises en damier sous un plafond à solives. De même, pour éclipser aussi l'œuvre de Diane à l'extérieur du château, elle conçoit un jardin plus petit, dit de curiosité. À l'exemple de Laurent de Médicis, elle fait venir des plantes étrangères et rares. Mais avec Madame Catherine, Chenonceau devient aussi un théâtre politique. Le 9 juin 1577, pour son fils Henri III, revenu de Pologne qui doit succéder à son frère Charles IX, et pour l'inauguration de la galerie, un gigantesque festin est donné. Les cuisines sont installées dans les deux premières piles du pont. Des bateaux, chargés de ravitaillement, accostent à un endroit appelé le bain de Diane, même si on peut douter que la belle eût apprécié de se baigner sous le regard des marmitons. Le 2 août 1589, Louise de Lorraine, épouse du roi Henri III, est à Chenonceau quand elle apprend qu'il a été poignardé la veille par un moine fanatique du nom de Jacques Clément. Selon le rite des Valois, elle prend le deuil en blanc et étend son affliction à l'ensemble du château dont les pièces sont tendues de noir. Le temps des fêtes insolentes fait place à un pieux silence jusqu'en 1601. Dans sa chambre, où la veuve vivra en recueillement pendant 11 ans, le plafond à caissons arbore les armoiries de 5 souveraines ayant occupé la pièce. Louise de Lorraine, bien sûr, mais aussi la reine Margot, épouse d'Henri IV, Élisabeth de France, épouse de Philippe II d'Espagne, Marie Stuart, épouse de François II, et Élisabeth d'Autriche, épouse de Charles IX. Les murs sont décorés de larmes d'argent, car contrairement aux idées reçues sur Henri III, le couple qu'il formait avec Louise de Lorraine était profondément uni. Leur malheur fut de ne pas avoir d'enfants. La mort du roi signe la fin des Valois et l'avènement des Bourbons avec Henri IV. Sous le règne de Louis XV, après un siècle de dévotion silencieuse, le château sort enfin de son atmosphère méditative grâce à une autre grande dame, Madame Dupin. Il est remeublé et décoré par cette fille du richissime banquier de Louis XIV puis de Louis XV, jeune femme charmante et spirituelle, porteuse de l'esprit des Lumières. À chaque belle saison, elle reçoit l'élite des célébrités de l'époque, écrivains, philosophes, artistes et savants, de Marivaux à Fontenelle et à Buffon, sans omettre Montesquieu ni d'Alembert liés à la prodigieuse aventure de l'encyclopédie. La beauté de Madame Dupin est telle que lorsqu'elle accueille Voltaire, celui-ci, faisant allusion au temps qui passe, tourne un joli compliment à son hôtesse « Car je vieillis, madame, et vous embellissez ». Le salon de Madame Dupin, veuve, est très brillant et ses invités sont ravis de se faire héberger. La grâce et l'intelligence de la maîtresse de maison sont soulignées par un ravissant tableau de Nattier. Pour organiser ces réunions éclairées, Madame Dupin a un secrétaire, Jean-Jacques Rousseau, qui est aussi le précepteur de son fils, un enfant gâté et difficile. Utopiste et errant de protectrice en bonne maison, Rousseau, qui se dit « citoyen de Genève », apprécie la cuisine de la région. Disons seulement que le retour à la nature prôné par le penseur s'accompagne d'agréables accommodements. La renommée de Madame Dupin l'aidera, elle et le château, à vivre la période révolutionnaire sans trop d'inconvénients. En effet, le passé de Chenonceau peut paraître provocant. Par bonheur, le curé de la paroisse, l'abbé Lecomte, fait observer aux révolutionnaires qu'en détruisant le château, il supprimerait le seul pont reliant Montrichard à Bléré, ce qui irait contre les intérêts du peuple. Cette considération est retenue, la révolution a besoin de routes et de ponts, et les passages d'une rive à l'autre du Cher sont rares. Château-pont, Chenonceau est donc utile. Grâce à Madame Dupin, la chapelle est sauvée car transformée en réserve à bois. Tout signe religieux a été dissimulé. Madame Dupin s'éteint en 1799, âgée de 93 ans, entourée de l'affection des villageois. Elle fut la femme de lettres de Chenonceau. Elle est enterrée dans le parc. Sa succession est pittoresque. Sans héritier direct, elle avait reporté son affection sur son beau-fils qui s'était remarié avec la fille du maréchal de Saxe et d'une danseuse, elle-même veuve d'un bâtard de Louis XV. De leur union était né François-Maurice Dupin, père de la future George Sand, de son vrai nom Aurore Dupin. En 1863, le château est racheté par Marguerite Pelouze, fille du fondateur de la compagnie qui équipe Paris du gaz d'éclairage. Des travaux de modernisation, parfois discutables, sont entrepris. En 1913, le château est acquis par le célèbre chocolatier Meunier. Dès le début du premier conflit mondial, la Grande Galerie devient un hôpital où seront soignés 2254 blessés. La belle-fille de Gaston Meunier en est l'infirmière-chef. Un fils Meunier est aviateur dans la célèbre escadrille des Cigognes et compagnon de Guynemer. Une mitrailleuse du pilote est conservée dans le château. L'hôpital militaire fonctionnera jusqu'en 1919. Pendant la Seconde Guerre mondiale, après l'armistice de 1940, la France est coupée en deux. Au nord, la zone occupée par le Troisième Reich, au sud, la zone libre. Chenonceau se trouve sur la ligne de démarcation. Triste symbole. Après 1945, il reçoit le président américain Harry Truman lors de sa première visite en France. C'est un hommage au souvenir de Charles Lindbergh que les Meunier avaient accueilli. Sous l'égide d'Odette Meunier, Chenonceau devient une prestigieuse entreprise culturelle. L'accueil et la visite ont été améliorés par Laure Meunier, belle-fille d'Odette, et son mari, assisté d'une équipe très professionnelle. Un bureau de Chenonceau a même été ouvert à Pékin. Après diverses et remarquables remises en état, des expositions soulignent le rôle historique du château. Un pont entre les cultures. Il est vrai que ce monument unique est un éblouissant témoin de la Renaissance et de notre histoire. Cinq siècles plus tard, les dames de Chenonceau continuent à veiller avec talent et passion sur ce joyau. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de cette mini-série Au cœur de l'histoire consacrée au Château de la Loire.
Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. Ressources bibliographiques. Henri II, par Yvan Cloula, édition Fayard, 1985. Catherine de Médicis, par Jean Aurieux, édition Flammarion, 1986. Le château en France, sous la direction de Jean-Pierre Babelon, édition Berger-Levrault, Caisse nationale des monuments historiques, 1986. Les châteaux de la Loire, par Jean Descartes, édition Perrin, 2009.